Non mais attends mec, te barre pas comme ça, ça fout une sale ambiance.
On a même pas fini l'apéro.
Non mais c'est bon les gars, moi j'en peux plus, je suis venu pour passer un bon moment entre amis et au final on est là comme des cons à écouter des abrutis parler de trucs dont tout le monde se fout.
Ah non, je suis pas d'accord, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du cinéma tunisien.
C'est pas faux, tu vois, je pense encore une fois Fred, tu t'énerves pour rien, ce qui sauve dans ces moments-là.
Fais pas cette phrase s'il te plaît, mais on est entre potes, non?
Mais c'est pas ça l'amitié putain, c'est pas de se faire chier tous ensemble bordel. Enfin, c'est aussi ça mais pas que. L'amitié c'est le seul acte de foi aveugle qui obtient une réponse, merde. C'est une promesse, et c'est la seule raison pour laquelle on peut s'autoriser à avoir l'air con d'avoir des amis. C'est pouvoir se foutre ensemble de la gueule du monde, et en toute occasion, sans avoir à se caler dans une case ou à respecter que ceux qui nous prennent pour des cons veulent pas voir ou entendre. Non, je suis désolé, l'amitié c'est pas ça.
Bon, au pire, on va boire une bière.
Allez !
Bienvenue à tous et à toutes dans Melting Pop, épisode 7 sur Radio Campus Rennes 88.4. Je vais attendre que les Sonics ferment un peu leur gueule. Merci les gars. Merci. Non, arrêtez, c'est gênant, arrêtez de jouer s'il vous plaît. Donc Melting Pop, c'est l'émission de la pop et de la sous-culture, et parce qu'on adore être en dessous. Chaque semaine, on décortique avec vous un thème de la pop culture et de la sous-culture, avec brio et talent, des fois. Et cette semaine, après avoir exploré les rivages solitaires et violents du punk, et entrevu un aperçu d'un futur dystopique où les beaux font le pouvoir, Melting Pop revient avec un thème un peu plus décontracté du gland. On revient à nos premiers amours, en somme, le thème, pas le gland. Puisqu'on va parler de l'amitié vue à travers la pop culture. Pendant ce petit solo de guitare des familles, je suis Fred, et je vous accompagne tout au long de l'émission, et bien plus encore cette nuit si vous le voulez bien. Surtout vous, Madame Pigeon. À ma droite, je retrouve Antoine.
Salut.
Et à ma gauche, Paul.
Salut les kids.
Et en face de moi, prêt à charger, Jérém.
Salut les loulous.
Charge pas, il y a une vitre hein, quand même. Donc avant de commencer l'émission avec la rubrique culture, on vous rappelle que Melting Pop c'est tous les lundis de 13 à 14h sur Radio Campus Rennes et que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux du monde, même ceux qui n'existent pas encore. Twitter, c'est le @meltingpoprcr, Facebook, Radio Campus Rennes, Melting Pop, aimez la page, il y a plein de jeux concours super bien.
Même qu'on fait gagner des smoothies.
Même que des fois on fait gagner des smoothies, que des fois on fait gagner des photos nues de certains des animateurs.
Allez.
Antoine,
non. Sachant qu'il y a qu'un seul animateur.
J'ai plus. C'est ça, voilà. En fait, tu... Bref, j'ai rien à dire.
Et on se retrouve avec la rubrique culture juste après une petite virgule derrière les fagots.
Encore une fois, tu t'énerves pour rien, c'est fou. Mais tu vois, ce qui sauve dans ces moments-là, c'est la musique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un petit collectif tunisien. La dernière fois que je suis allé me faire masser à Châtel, enfin bon, ça on s'en fout.
Yes! Yes! We're back! We are back! Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it.
I can't get enough of joy. And I tell you sometimes, if you this could be loved, they'll do this. I've had the time of my life. And I...
Dairy. Yeah. Legendary.
Voilà,
c'était un génie, t'es un génie, Fred.
C'était alors dans l'ordre un extrait du film Radio Stars avec Manu Payette et le magnifique personnage de Cyril et Clévis Cornillac. C'était aussi des extraits de la série OM et Turmoser et New Girl, que vous avez été à regarder et dont on reparlera sûrement plus tard. Alors, pour cette rubrique culture, je vais pas chercher à être original pour faire au final la même chose comme on l'a fait ces dernières semaines. Et pour une fois, je ne conclurai pas. Je t'aime, Jérém. Et pour une fois.
Va te faire.
Et pour une fois, j'exorcise aussi mes démons, je ne conclurai pas avec une mort de merde, comme j'en ai pris la mauvaise habitude. Donc pas d'explosion d'eau cette semaine ou de fille qui se fait violer par sa tante. Non, aujourd'hui je serai sobre. Je reviens avec un bon petit top 5 de derrière les fagots. Enfin sobre, c'est une façon de parler. Ouais. Tu sais bien que ça fait depuis 1999 que je ne suis pas sobre, mon petit gars.
T'étais né ?
Oui, j'étais né, oui. Je suis pas jeune, je suis vieux. Les fagots, donc complètement. Donc ce top 5 ne sera pas objectif. Attends, je vais attendre qu'ils finissent de mourir. D'accord. Jérém, ne meurs pas, s'il te plaît. Ça mettrait une sale ambiance. Et j'ai volontairement enlevé Scooby-Doo et Samy de ma liste, à grand regret, parce que je me suis dit que j'allais me prendre des scuds dans la tête.
Oh non,
ah, non plus parler.
Ça aurait été marrant.
Ça aurait été trop cool. Ouais.
Donc, bien aimé. Attends, vous êtes sérieux? Vous auriez voulu que je mette Scooby-Doo?
Et moi,
j'aurais
voulu voir Scooby-Doo.
Ça aurait été
génial. Ça aurait été génial, Scooby-Doo.
Les films bah, Scooby-Doo, mais je les regardais en boucle.
Bah, bah, vous allez apprécier alors, parce que mon premier top 5, c'est Tintin et Milou.
Oh oui.
Non, je déconne. Friends, c'est Friends.
Tristesse.
Donc, série phare de la chaîne Fox pendant des années, créée par Martha Kaufman et David Crane le 22 septembre 1994 et finie le 6 mai 2004, souvent imitée, rarement égalée. La série dont beaucoup considèrent qu'elle a réécrit l'écriture des sitcoms. C'est les séries dont les...
Ouais, dans un Mother, format de 20 minutes, pratiquement, généralement. Enfin, c'est comme les... C'est ça, c'est un format
oui, c'est ça, c'est 20 minutes, mais du coup, je crois que tu avais donné la définition et je te laissais y aller.
Bah, en gros, une sitcom, c'est une série qui est diffusée généralement à partir de 20h, qui consiste à faire un épisode de 20 minutes qui ne, par des épisodes qui ne, comment dire, ne se suit pas directement. En fait. Ça peut être très c'est bien ça. Parler d'un, passé d'un chose à un autre. Et c'est après, voilà, c'est le, surtout le format
dans,
en soi.
Qui, dans des lieux récurrents aussi.
Ouais, ouais c'est ça. Puis il y a des gimmicks.
C'est des petit budget, c'est censé être drôle aussi.
Voilà.
Voilà
en puis gros. C'est surtout aussi, généralement, à l'époque, c'était surtout avec des rires.
Enregistré.
Mais avant. Maintenant,
c'était voilà. Horrible, ces putains de rires enregistrés.
Mais non, pas non. Du tout.
Bon, ouais.
Elle a permis la découverte d'actrices. Cette série Friends comme Courteney Cox et Jennifer Aniston pour citer que ceux qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie depuis.
Non,
là, je suis mort.
Non mais je sais, je suis un peu taquin.
Matt LeBlanc, il a sa série.
Matt LeBlanc, elle a réussi, mais il s'est fait annuler la semaine, l'année dernière.
Et il y a aussi Mathieu Perry aussi.
Mathieu Perry aussi s'est fait annuler l'année dernière.
Non, il a fait une nouvelle cette année.
Oui, mais enfin, il en fait une toutes les ans.
Ah,
et
c'est ça,
il Donc au final, c'est facile à ce rythme-là. Donc si on devait retenir quelque chose de cette série. Non, ce n'est pas l'insupportable histoire de Ross et Rachel qui pourrait donner à n'importe quelle fleur bleue l'envie d'avoir un sex friends plutôt que de se prendre la tête pendant 10 ans pour savoir qui avait rompu. Hein. Non, si on devait retenir quelque chose à part le fait que les cafés, ça semble vachement plus fun à la télé que dans la réalité, sauf quand il s'agit du Columbus que vous pouvez retrouver à Place Saint-Amix. Que ça ne l'est en vrai.
On est payé combien pour faire ça?
Très cher.
Bah, en ce qui me concerne, je gagne des cookies gratuits.
Oh putain.
Voilà. Si on doit retenir un seul élément de cette magnifique série, c'est le duo Chandler et Joey. Deux personnages différents, comme pas possible, et pourtant tellement plus complémentaires que n'importe quel couple qu'on a pu voir dans la sitcom. Que ce soit leur déboire de logement, quand Joey réussit à se faire dévaliser tout leur appartement parce qu'il a parié qu'il pouvait s'enfermer dans un meuble, ou pour quand, pour se racheter d'une bêtise qu'il a fait à Joey Chandler, passe Thanksgiving enfermé dans une boîte, jusqu'au bout, on a rarement vu d'aussi des meilleurs copains, comme ils disent, plus complices et surtout plus drôles. Joey Chandler, c'est un duo qui a quand même marqué les esprits parce que, à part leur déboire au niveau de la sexualité et tout, c'était deux personnalités complètement différentes, l'une extravagante, l'autre au contraire relativement terre à terre, qui se complétaient parfaitement et qui formaient un duo de rire absolument inoubliable. Quatrième. Tu es beau quand tu t'étires, mon Antoine.
Peux... Oh,
ça me déconcentre, je vois. Je mettais ton
tu vois rien du tout. Bon, allez.
Mais bon, alors, OMS sur Mother, créé par Carter Bay en 2005 pour la CBN. Ce fut la Friends de notre génération, et bien que son agonie fut très longue durant ses trois dernières années d'existence, et même un petit peu avant, ce qui pour moi, on peut dire que cette série légendaire, légendaire, mi-français, mi-anglais, je m'en bats les couilles, j'ai aucun respect, actualisant le concept de Friends à notre génération, fini le café, c'est les bars, on réduit le groupe et on crée des personnages types auxquels chacun de nous peut s'identifier, et bien sûr le légendaire, je le fais à chaque fois, Barney Stinson. Si on remarquera la complicité des deux protagonistes féminins, principaux, cette phrase ne veut rien dire, c'est surtout l'amitié qui unit Barney, Ted et Marshall qu'on retiendra. Et peut-être encore plus celle des deux premiers, car si Marshall et Ted se comprennent comme personnes et sont toujours là l'un pour l'autre, Barney, derrière des tendances légèrement sociopathes, le monsieur, est un vrai pote. Et derrière toutes ces punchlines cultes, de son « wait for it » à son « soudap », tout est culte dans le personnage et sa relation avec Ted encore plus. De leur rencontre dans les urinoirs où il annonce aux jeunes romantiques qu'ils veulent lui apprendre à vivre à tous leurs gros moments, que ce soit l'ouverture de leur bas fictif « le puzzle », aux soirées drag élaborées autour des plans délirants de Barney comme le « Tu connais Paul ?» de Ted, leur amitié est absolument fantastique, délirante et tellement réaliste parce que toutes les conneries qu'ils font tous les deux, on sait qu'on pourrait les faire qu'avec nos vrais potes et ça, c'est enfin un des plus beaux duos de la télévision. Oui, Paul ?
High five !
High five !
Ouais, voilà.
Ils nous alors, les deux autres nous regardent comme s'ils allaient nous tuer. Bon.
Next.
Troisième, Nick Frost et Simon Pegg de la trilogie Cornetto. Donc on passe de la télé au cinéma. C'est bon, je sais qu'Antoine ne les aime pas.
Mais la trilogie Cornetto, bon. C'est génial.
Ouais. La trilogie Cornetto, c'est
génial.
Si t'es
arrêté à la première, quoi.
Oh, le mauvais.
Bon, allez.
Ceux-là ont failli être les premiers, mais j'avais du mal parce que je savais qu'Antoine ferait...
Sinon, c'est quoi cette imitation?
La trilogie Cornetto, c'est composé de trois films qui portent ce nom parce que dans chaque film, on peut voir un Cornetto. Merci. Parce que s'il y en avait 8, en plus, ça serait bizarre comme non-trilogie. Alors, à savoir donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde. C'est d'ailleurs le seul des films qui n'a pas un nom anglais.
en français. C'est marrant.
Si, il y en a un, je crois.
The World Ends.
C'est ça.
Mais c'est le dernier pub avant la fin du monde.
Ils l'ont changé, oui. Ouais.
Les trois films des potes les plus barrés du monde, puisqu'ils parodient dans l'ordre les films de zombies, les films de flics et les films d'apocalypse, tout en restant des buddy movies. Ce qui est quand même plutôt bien. Le tout en transportant le même message sur ce que c'est l'amitié et la façon dont elle évolue quand les gens changent et grandissent. Dans cette trilogie sur le passage de l'âge enfant à l'âge adulte entre potes, c'est important le entre potes parce que c'est pas juste comment ils apprennent à être adultes, c'est être adulte avec ses amis. On retrouve toujours le même duo incarné par Nick Frost et Simon Pegg, que j'adore, que je jouis, que je m'intéresse en pensant à lui, qui restent malgré leurs différences et leur conception de la vie opposée toujours unis, grandissent ensemble et au final ce n'est pas eux qui vont provoquer la séparation de leur duo, mais la vie qui les pousse dans des directions différentes. C'est une belle leçon d'amitié que cette trilogie Cornetto, en tout cas, donc je vous la conseille. Et en plus, c'est très, très drôle. C'est un humour anglais.
C'est à mourir
deuxième,
de rire.
Excusez-moi, j'ai bugué. On m'a rebooté. Donc, deuxième duo de mon top 5, Dorian et Turk de la série Scrubs. Donc, je vais pas en parler pendant très longtemps. Scrubs, c'était une série culte aussi, mais pas dans le format sitcom, mais un peu en prenant un peu ça. Une comédie qui se passait dans le milieu hospitalier et qui parodiait le quotidien de jeunes internes en chirurgie et en médecine. Ça a duré 10 saisons et c'est terminé maintenant. Imaginez que vous avez un pote dont vous êtes tellement pote que quand vous partez dans vos délires, vous vous imaginez dans une comédie musicale dansant et chantant votre humeur de tous les jours. Non seulement il est dans votre délire, mais en plus il chante avec vous. Et bien l'amitié qui lie Dorian et Turk dans la superbe série Scrubs, série comique et parfois franchement tragique, c'est une amitié à base de larmes viriles et de scuds bien placés, mais c'est une amitié qui leur permet de survivre à leur internat et à chaque petite épreuve qui leur roule dans les chevilles tout au long de la série. Et c'est vachement bien. Et maintenant, en top 1, le docteur...
Non. Ta gueule.
Je déconne. Je me suis vraiment touché, comme en ce moment, pour savoir qui serait en premier. Au début, j'ai voulu passer Groot et Rocket Raccoon des comics et maintenant Finn, gardien de la galaxie, parce que j'adore ce duo, ce raton laveur humanoïde psychopathe et ultra-violent et l'arbre mutant le plus adorable de la galaxie.
Ah oui, I'm Groot.
Je savais que t'allais
le faire. Il a pas 36 des arbres mutants mignons. Hein.
Si. Alors moi j'en ai un dans mon jardin, c'est un petit séquoia. ce raton, et puis ça m'a donné envie de... En fait, ce duo ne peut pas m'empêcher de faire penser au duo sur lequel il est calqué, c'est-à-dire Han Solo et Chewbacca, un autre duo dans le même genre qui vient de Star Wars. Et quand je pense à Star Wars, je pense à Retour vers le futur. Donc j'ai failli parler de Marty et Doc, parce que c'est ça un vrai pote, c'est un pote qui voyagera dans le temps dans une DeLorean pour te sauver le cul, mec. Et ça, c'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour. Et quand on parle d'amitié qui devient amour, forcément on pense au chef-d'œuvre du film romantique qui est quand Harry rencontre Sally avec Billy Crystal et Meg Ryan. Mais pour moi, l'amitié, la vraie, dans toute sa splendeur, tu la vois dans le groupe de chasseurs de SOS fantômes. Parce qu'un vrai pote, c'est celui qui se fera asperger de vomi fantomatique pour toi. Le vrai pote, c'est celui qui combattra une divinité diabolique venue de l'aube des temps à tes côtés et qui bouffera ensuite un Twinkie après avoir redécoré New York avec les tripes d'un putain de bibendum chamallow. Et c'est pour ça que le quator de SOS Fantôme, dans les deux films de Ivan Reitman, qui symbolise, est celui qui pour moi symbolise le mieux l'amitié dans la pop culture. Voilà.
Je suis sociopathe alors.
Voilà. Et j'aurais pu aussi vous parler de Thelma et Louise dans le film de Ridley Scott, mais je vous entends, féministe en colère, calmez-vous, je vous laisse le plaisir de découvrir ce duo de tarés qui saute du haut d'une montagne dans une prochaine émission. C'est tout pour moi. Voilà, donc c'était la rubrique culture, je mettrai les liens de tous les trucs dont j'ai parlé à la fin, et tout de suite on enchaîne avec une courte pause musicale. On va écouter Poursuite de Stuck in the Sound, et on reviendra à l'école et dans le cinéma.
Run away from the underworld.
Stuck in the Sound poursuite. Je vous invite à écouter leur super album. C'est un groupe que j'adore, et à regarder le clip de cette chanson qui est composée uniquement de musique de d'extraits de films cultes des années 80. On revient tout de suite sur Radio Campus Rennes 88.4 d'un Melting Pop, et on revient au son de cette merveilleuse musique plein de rock débordant et suant avec Paul et la rubrique cinéma qui va nous parler de potes.
Très belle introduction.
Parle-moi de potes.
Alors bah déjà aujourd'hui j'ai décidé d'être un peu chauvin pour une fois et de parler de deux films français.
Français, ma petite dame.
Et là j'avais vraiment l'embarras du choix parce que les films sur l'amitié qui sont parfois des films qu'on
qualifie... Marine Le Pen qui va être content.
Oh mais non, mais faut arrêter de parler d'elle, ça pue dans le studio à chaque fois. Donc qui sont parfois ces films qualifiés par la douce appellation de films de potes. C'est pas ce qui manque dans le cinéma international. Good Morning England, tu l'as dit, la trilogie Cornetto, les invasions barbares, American Pie, Pineapple Express, This Is The End, etc., etc. Et dans le cinéma français non plus, j'aurais pu vous parler de Comme des frères, des petits mouchoirs ou de mes meilleurs copains, et j'en passe des meilleurs.
C'est qui tes meilleurs copains? C'est pas nous?
Ouais, c'est pas toi en tout cas.
D'accord, bah tu peux toujours
Du coup, j'ai fait un choix absolument arbitraire et personnel qui frustrera peut-être certains et qui en réjouira peut-être d'autres, j'espère.
Je me sens frustré.
Oh. Pourtant, avec le week-end, enfin bref.
on va passer à autre chose.
Alors, donc le deuxième, enfin le premier, enfin voilà, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est Le Péril Jeune, sorti en 1994 et réalisé par Cédric Clapiche, à qui l'on doit la trilogie géniale. La trilogie géniale qui ne porte pas de nom, hélas, composée de L'Auberge espagnole, Les Poupées Russes et le dernier en date, Casse-tête chinois. Alors je considère Le Péril Jeune comme le film de potes ultime. De la comédie, du dramatique, Le Péril Jeune nous plonge dans un univers post-68art, puisque ça se passe dans les années 70. Enfin, non, pas exactement. Enfin, oui et non, mais surtout oui. En fait, le film...
Quoi ?
Le film vient d'exploser.
Tu vas voir, tu vas comprendre, c'est très simple.
Okay.
Le film raconte les retrouvailles de quatre potes qui se retrouvent pour l'accouchement de la femme du cinquième membre de la bande, mort d'une overdose quelques semaines avant.
Et pas l'accouchement du pote, parce que comme il est mort, c'est plus difficile.
Continue. Exactement. Tout à fait. Sinon, ce serait vraiment bizarre. Et
je
ce serait plus un film de potes.
C'est moi, Dr. Obvious, là pour préciser tout ce que vous savez déjà.
On assiste alors à des flashbacks qui, cette fois-ci, se passent dans les années 70, de leur tendre mais pas trop jeunesse dans les années 70, voilà, je me répète, bref, je m'en fous.
J'emmerde le
monde. Merde, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, ok?
Ah, le punk.
Non, retour. Alors, on découvre leur goût pour la musique, leur découverte de la drogue, leur engagement politique, etc.
La drogue, c'est bien. Mal.
C'est mal, non, c'est mal. Oh, faut pas le dire. Qu'on a...
Radio non, Campus Rennes,
c'est grave.
On peut aisément s'identifier aux personnages, et si je trouve la grande force de ce film, c'est que, en fait, même si l'univers... Arrête de...
tu fais quoi?
Je me refous de le nez.
Arrête de jouer avec la farine, Jean-Eudes. On peut aisément s'identifier au personnage, si je trouve la grande force de ce film, parce que même si l'univers dépeint date de 40 piges, bah, c'est toujours la même chose, en fait. Il y a toujours une histoire de lutte, une histoire de pas faire forcément comme les générations passées, et on peut alors trouver dans ce film une envie de vivre pleinement nos années d'insouciance, de décadence, de révolte, que sais-je, ce que vous faites déjà, fidèles auditeurs, j'en suis sûr, et je vous en félicite d'avance. Le deuxième, c'est Radio Star, sorti en 2012 et réalisé par...
Oh,
Yannol. Réalisé par Romain Lévy. Il met en scène une bande de potes qui ont une émission de radio matinale, le Breakfast Club, sur Blast FM, première radio de France.
C'est plutôt
Radio
Campus Rennes.
Tu me pètes ma vanne de fin, quoi.
Oh non.
On a en personnage... Hein, j'aurais dû te prévenir, j'ai oublié, je suis arrivé en retard, voilà, ça m'apprendra. On a en personnage principal Ben, qui paradoxalement est le personnage le moins attachant du film, je trouve. Parce qu'il a pas trop de personnalité, qui arrive dans cette bande au moment où Blast FM passe deuxième. Le directeur de la radio, Frédérico, décide alors d'envoyer le Breakfast Club faire le tour de la France en bus pour reconquérir ses auditeurs. Ça donc lui a un road trip trépidant avec des moments très drôles. Par exemple, un moment où ils interviewent un mec qui s'est fait tatouer le logo de la marque Curly sur le front pour gagner de la thune, et il dit de manière complètement innocente « Bah non, ça me dérangerait pas de rajouter paprika dessus si j'étais augmenté. »
Il y a un mec dans la soirée qui te prend la tête et qui te mange, tu fais quoi?
Alors là, il va lui attaquer les yeux. Là.
Cette scène est très drôle.
C'est très mauvais.
Cette scène est très drôle. Et d'autres moments un peu plus tristes, et ces moments d'ailleurs qui soient drôles ou tristes, sont majoritairement l'œuvre de Cyril, interprété par Pascal Desmoulins, et Arnold, joué par Clovis Cornillac, qui signe là, je trouve, son meilleur rôle.
Complètement d'accord.
Tant mieux. Les personnages de Fabrice, alias Smithers, et de Jérémy, le rouquin qui bégaye à cause de sa consommation excessive de la boisson qui tue, vous comprendrez, sont aussi particulièrement appréciables.
Yes.
On a donc ici tous les ingrédients d'un bon film de potes. Des potes, déjà, c'est toujours mieux. Une émission de radio, de la bonne musique, et mais... On dirait Melting Pop.
Oh,
Lui, tu vois, et tu m'as pété ma vanne de début.
Mais oui, d'un coup, tu vois, ça pue le même.
Et je quitte ce studio.
Toi, tu veux plus de cadeaux à Noël, toi.
Oui.
Oui. Oh, bah, tu l'auras, ta fellation.
Oh, oui. T'inquiète pas. Ah, vous pouvez pas faire ça de part, bordel de merde.
Bah non, ici, maintenant.
J'en ai marre, moi.
Et je quitte ce studio.
Non, mes oreilles saignent.
Oh,
j'ai fait une blague horrible à faire.
Oh, vas-y.
Mes oreilles saignent, du coup, j'ai
pas. Oh, non. Ta gueule.
Bref. Ok, on va dire que c'est la limite.
Franchement, en vidéo Radio Star, enfin, nous on l'a tous vu, du coup, moi j'ai bien aimé. J'ai bien rigolé, je trouvais que c'était un bon truc. Par contre, faut le voir avec des potes. Je pense que tout seul,
ouais,
j'aurais peut-être moins
apprécié.
Mais bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous les gars.
Bah, c'est un film de potes fait pour un groupe de potes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est assez bien résumé, quoi.
Ouais. C'est pas trop sérieux non plus, donc c'est assez. Pour un film français, quand même.
Mais je trouve qu'il y a des moments un peu dramatiques qui sont bien, tu vois. Genre quand, par exemple, le jeune il pète son câble en studio, c'est hyper. Enfin, c'est fait pour mettre mal à l'aise, on est hyper mal à l'aise.
Oui, je veux bien.
Il joue hyper bien d'ailleurs. On y croit vraiment. Quoi,
non, mais c'est vrai que c'est une comédie où les acteurs jouent très bien et c'est intéressant de voir ça.
Et j'étais surpris par Cornillac parce que je n'aime pas du tout cet acteur. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon dans.
J'ai juste une petite dédicace, Maxime, qui m'envoie un message. Il me dit framboise au foutre. Je pense qu'il voulait son moment de gloire dans l'émission. Voilà.
Bah, on lui enverra comme cadeau des framboises au foutre. Aux trois parfums.
Pour Noël.
Trois parfums. Quatre parfums. Parce que...
Oui, quatre.
Bon, bah, merci beaucoup, Paul. Donc, on rappelle les deux films Le Péril Jeune, réalisé par
Cédric Lapiche.
Merci bien. Et du coup, Radio Star, réalisé par
Romain Lévy.
Romain Lévy, on vous conseille les deux films. D'ailleurs, j'avais juste un petit truc rapidement à dire. Le Péril Jeune, on peut remarquer que dans leur flashback, c'est pas la même caméra qu'ils utilisent au niveau de l'image que dans les scènes, dans le présent.
En IMAX, voilà.
Je sais plus, mais en fait, ça donne un cachet au film quand ils sont dans le flashback bien plus justement sale et puis un peu
ouais,
plus.
Mais c'est une volonté de réalisme aussi de correspondre aux années 70.
Enfin, voilà. Du coup, bah, merci beaucoup, Paul, pour cette chronique. Tout de suite, on va faire une pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, dis-moi ?
Tu vois, Fred. Ce qui sauve dans ces moments-là, c'est la musique et l'amitié. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous faire écouter aujourd'hui la bande à Lucien de Renaud.
Et on reviendra juste après avec Antoine et la rubrique série.
Ça fait quand même vachement plaisir de te retrouver, mon pote Lucien. Je parie que t'es encore sans un et t'as toujours ton blouson de cuir. T'as pas changé depuis 68, à cette époque on se fendait la gueule. Aujourd'hui t'as l'air un peu seul, allez viens, on va se prendre une cuite. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Dis comment qui s'appelait le petit, celui qui volait les mobilettes, celui qui a plongé en 67 et qu'on n'a pas revu depuis. Ça doit pas être le super pied, la vie a fleuri Mérogis, mais elle supporte pas la justice, on crache à la gueule du greffier. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Et Pierrot, le fou de la bécane, qui a eu les deux jambes écrasées, il aurait mieux fait l'y passer, c'est vraiment trop con les platanes. Il bosse toujours à l'atelier, assis sur un fauteuil roulant, tu me dis qu'il chiale de temps en temps, tu vois, je m'en serais un peu douté. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Pense pas que t'aies oublié Riton qui s'est fait descendre au bistrot d'une balle dans le ventre à les salauds parce qu'il avait cogné le patron. T'as plus de nouvelles de Marilyn, celle qui est partie pour Ibiza, doit être en train de crever là-bas avec sa petite sister morphine. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Et toi, mon vieux, mon pote Lucien, c'est vrai que t'habites chez ta belle doche, que t'es marié, que t'as des mioches, que tu travailles pour qu'ils aient du pain. Tu sais, j'ai une idée super, on va former une nouvelle bande. Si tu veux, c'est toi qui commande, s'il vous plaît, patron, encore une bière. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant, qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Quelle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains?
La bande à Lucien de Renaud sur Radio Campus Rennes dans Melting Pop 88.4. Il a un sourire absolument détestable.
Ah, mais on revient... Joker, quoi. Hein ? On dirait le Joker. Quoi.
On dirait le Joker qui s'est pris le gaz hilarant.
Why so serious ?
Il me fait peur. J'ai peur, j'ai peur.
Je suis sexy, mais...
Je suis entouré de psychopathes. Alerte aux psychopathes. Donc on revient dans Melting Pop avec la rubrique série. Et qu'est-ce qu'on va causer d'aujourd'hui, Antoine ?
Bah, quand on pense aux séries américaines d'amitié, on pense direct à quoi ? On pense à Friends ?
Two Girl One Cup.
C'est pas américain, si.
C'est forcément américain.
Donc je ne parlerai pas de Friends, parce que non, je ne parlerai pas de Friends. Non, je ne parlerai pas de Friends, et surtout pas je parlerai
mais
de Friends.
Tu pourrais parler de Friends.
Ta gueule. Mais je vais vous parler de nouvelles séries américaines qui peuvent en découler, qui sont sorties généralement il n'y a même pas 4 ans ou 3 ans. Ça. Donc, mm-hmm. La première que je vais parler, c'est New Girl. Donc on a déjà commencé brièvement à parler au début de la saison.
Yes.
Enfin, la série. Et donc, une série télévisée américaine qui est créée par Elizabeth Merriweather. Bon, on s'en fout en vrai. Hein.
À tes voilà. souhaits.
Donc, elle est diffusée sur à la Fox, donc le réseau grand Fox, là où il y a eu toutes les, il y a une grosse période de séries ouais, très
dont
connues.
On avait parlé la semaine, il y a 3 émissions.
Ouais, il y a un moment
de ça.
Et donc pour vous faire un bref synopsis, bah, l'histoire ça se résume donc à Jessica Day, donc on appelle Jess, qui après une rupture décide d'avoir un nouvel appartement. Donc elle recherche en ligne un appart, elle tombe sur une colocation avec 3 mecs qui sont donc ensemble à Los Angeles, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Donc Jess a emménagé avec eux. Et par assistance de ses nouveaux locataires, elle apprend à avancer. Enfin, avancer, c'est un bien grand mot. Parce que quand tu vois une meuf avec 3 mecs dans un appart, sans que ce soit sexuel, c'est du grand n'importe quoi. Mais vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Donc, en fait, ce qui crée vraiment une histoire décalée, c'est que est différente de toutes les anciennes sitcoms. Parce que bon, quand tu penses à ça, tu penses directement à Friends, tu penses à toutes les séries. C'est vrai qu'après, ouais, Match Mother, tout ça. Enfin, voilà. Donc, le fait de vivre ensemble, des personnages vivent ensemble, donc tu vois leur déboire, quoi. Mais c'est surtout que la présence des trois colocataires masculins sont vraiment, mais à mourir de rire, parce qu'ils sont tous différents. En fait, c'est des clichés sans lettres. Parce que par exemple, enfin, déjà il y a Nick, donc qui est le barman qui a été licencié de la faculté de droit, en plus il se la pète. En plus, je me suis fait licencier à la faculté de droit, tu vois.
Non, il a quitté.
Ouais, il s'est fait comprendre de se faire jeter.
On lui a demandé de partir.
Ouais, c'est ça, on lui a demandé de partir.
Le politiquement correct.
Après, il y a Nick, c'est surtout le mec qui a pas d'assurance vie, qui a pas d'assurance maladie, qui a trop flemmard, qui ne fait strictement rien, qui bouffe de la merde, qui sait pas faire, qui sait rien faire.
Moi, je le trouve très bien, moi.
Ça, Nick. Et c'est surtout le mec en plus qui il peut pas mentir parce que sinon il transpire trop. Donc, voilà,
ça
c'est
très bien.
Et c'est con, comme ça, c'est n'importe quoi.
C'est énorme.
Et après, donc, il y a Schmitt, donc un travailleur en col blanc très dragueur. Enfin, très dragueur, je dirais même plus parce que bon, voilà, quoi, c'est
ça
vraiment
va,
le mec qui est. Ta gueule. Ta gueule. Et il est juif, donc il se la pète bien au niveau de ça.
Ouais.
Et surtout qu'en plus, c'est genre le mec qui est genre trop beau gosse aujourd'hui, mais qui était un gros avant.
Oui,
alors, du coup, il a une vie genre horrible et tout. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il y a Winston aussi qui est. Un ancien joueur de basket intensément compétitif qui veut toujours gagner, mais qui au final.
Mais il est adorable.
Mais surtout qu'il fait des blagues de merde, mais genre qui casse tout. En fait. C'est genre le mec, quand il va parler, tout le monde va fermer sa gueule. Et...
C'est l'ami gênant.
Oui, c'est ça, c'est l'ami
c'est
gênant.
L'ami gênant
c'est ça.
Avec des tendances zoophiles en plus.
C'est ça.
Mais et il a surtout une caractéristique principale, c'est qu'il est noir.
C'est ça.
Allez, moi je m'en vais.
Et en fait, ce qui va se passer, bon, ça arrive plus tard, mais il y a un autre personnage qui débarque, c'est le coach. En fait, il était là en présent dans le premier épisode de la saison 1, mais sauf que pour une autre série qui s'appelle Happy Endings, il a décidé de partir. Donc il était remplacé par Winston, puis au final, il est revenu. Et...
Parce que Happy Endings a été annulé, donc voilà, il a demandé à la fin
de la merde. Mais en gros, c'est un personnage, bon, le coach, bah, comme vous l'avez compris, c'est un mec qui est sportif, grand, black, qui est aussi dragueur que Schmitt. Enfin, voilà, quoi.
Ouais.
Et aussi, on peut rajouter un personnage, c'est Ceci.
Ah, oh, c'est
la fameuse.
Ceci,
ouais. En gros, en fait, c'est la meilleure amie de Jess. Elle s'appelle donc Cecilia et c'est une mannequin. Tu vois que c'est une mannequin.
Tu vois,
c'est une mannequin.
Comment vous décrire ça à la
et
radio
Mais non, mais ça passe. En fait, sans que ce soit vraiment un mannequin, elle est loin d'être conne, elle est vraiment très drôle en plus. Mais c'est le genre de personnage très cynique.
Et beaucoup de répartie.
Beaucoup de répartie, genre vraiment quoi. Et c'est ça qui est vraiment drôle. Donc en fait, la série se démarque surtout par la présence de Zoé Deschanel, qui est aussi la sœur d'Emily Deschanel qui joue Tépérance dans Bones. C'est Bones, c'est la même, c'est sa cousine, la meuf qui joue. Ouais, Tépérance, ouais.
Ah ouais.
Donc du coup, c'est les mêmes, enfin, sont dans la même famille. Et justement, Zoé Deschanel, elle joue dans Bones à un moment. Elle joue la cousine de. Non, c'est sa sœur, pardon, c'est sa sœur, je suis con. Elle joue la cousine
de
dans
Bones. Et elle joue, d'accord.
Et c'est sa vraie sœur, en fait.
Ok, bah, je savais, bah tiens, tu
vois. Et donc, en fait, elle était, pour ce personnage de Jess, qui est emblématique de la série, elle a été saluée plusieurs fois pour ses interprétations. Et elle crée vraiment un personnage très drôle, mais surtout qui détient un nombre incalculable de facettes, mais même de répliques ou même de gestes quand elle danse.
Ouais.
Genre, c'est la seule meuf qui va pas se taper lente en dansant avec la corde. Non, avec la corde aussi. Genre, elle est comme ça, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, vraiment, c'est une série à regarder. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant cette série, c'est surtout l'utilisation des histoires d'amoureuses qui sont tout sauf chiantes. En vrai, les histoires d'amoureuses, elles sont très réalistes et super bien amenées. Et en plus,
faisait longtemps qu'une sitcom n'avait pas été chiante au niveau d'histoire d'amour.
Ah, c'est clair. En fait, tu passes plus de temps à te marrer sur leur déboire, sur la con,
ça,
plutôt qu'à chercher à savoir qui va finir avec qui, quoi. Enfin,
ouais,
en vrai, tu t'en fous complètement. Et donc, en contrepartie, je vais vous parler d'un autre couple emblématique donc, de la série télé américaine de maintenant. Ça s'appelle Two Broke Girls. Alors, c'est une série qui est très peu méconnue quand même en France.
Enfin, très peu méconnue.
Très peu connue. Hey, tu sais que je t'emmerde.
Tu te calmes, Delis.
Tiens, pour la peine. Oula, t'as fait niquer l'horloge.
Et donc, pour venger Antoine, Paul va casser le studio.
Et donc Two Broke Girls, donc, c'est une série qui a été visée, qui est créée par Michael Patrick King et Whitney Cummings, et diffusée donc depuis 2011 sur CBS. Alors, en fait, elle a été diffusée le jour d'avant du début de la New Girl. The New Girl, c'est 20 septembre 2011, et Two Broke Girls, c'est 19 septembre. Donc, le synopsis, pour faire vite fait un résumé, donc, c'est l'histoire de Max, une serveuse qui travaille dans un bar. Non, plutôt un restaurant.
C'est ouais, un resto-bar.
Un resto-bar. Et donc, il se retrouve avec une meuf donc, qui s'appelle Caroline, qui est aussi une nouvelle restaurante autrefois, qui était richissime. Genre vraiment le stéréotype de la meuf riche, blonde, avec la frange, avec les bijoux, avec les chaussures Prada. Quoi. Voilà. Et en fait, cette meuf-là, elle a perdu toute son argent à cause de son père, qui a eu des fraudes et donc qui s'est retrouvé en tôle. Et donc, Max propose à Caroline d'être sa nouvelle colocataire. Donc, la série démarre à New York et raconte la vie de ces deux serveuses d'une vingtaine d'années. En fait, tout les sépare, mais genre vraiment, mais vraiment, quoi. Déjà, déjà quand tu les vois, l'une elle est blonde au gros sein, l'autre elle est blonde, enfin non, l'autre elle est brune au gros sein, la meuf elle est blonde au petit sein, elle a rien du tout, elle est plate, l'autre elle est un peu plus avec des formes, l'autre elle est pauvre, l'autre elle est riche, et il y en a une qui est cynique, il y en a une qui est trop naïve, enfin ouais. Mais c'est
extrêmement drôle, le contraste entre elle est juste à mourir
de rire. Il y en a une qui a un cheval et l'autre non.
Ah oui, mais non, le coup du cheval
est énorme.
Ils ont pété les plombs, mais c'est un truc de mal. Et donc tous les séparent, donc ils travaillent ensemble dans un restaurant de Brooklyn. Et même si c'est dur au début pour Max d'aimer une meuf comme ça, parce que voilà. Et bon, finalement, on passe les amitiés et ils sont donc de monter ensemble leur propre pâtisserie. Donc voilà.
De cupcake. Parce qu'il faut dire qu'en fait, Max est hyper doué pour ses cupcakes.
Ouais, c'est la seule. En fait, c'est une meuf qui est pauvre, sa mère est alcoolique, elle n'a pas eu de famille, elle n'a rien du tout. C'est le genre de meuf qui va déconner beaucoup sur le sexe. Genre, à comprendre qu'elle a tout fait, elle a tout vécu cette meuf. Enfin, voilà. Et donc, le but. En vrai, le fil conducteur, ce serait qu'ils amassent au début de la première saison, c'est qu'ils amassent $250,000 pour avoir leur magasin. Quoi.
Même Katsuni a moins fait que Max.
Ouais.
C'est dire.
Ouais, c'est dire. c'est vrai. Et donc, en fait, à la fin de chaque épisode, donc, le gimmick, c'est qu'ils marquent combien de thunes ils ont récolté. Bon, après, tu as plusieurs séries, tu en as 4. Et ça a beaucoup changé depuis, hein, en vrai. Maintenant, c'est différent. Ils ont réussi à créer leur.
Ah ouais, ils ont réussi?
Oui, ils ont réussi.
Bah oui, bien sûr que oui. Mec, spoiler, j'étais pas rendu là.
Non, mais en vrai, c'est même pas important. Il y a 4 saisons. J'espère qu'à un moment, ils vont réussir parce que putain. Et aussi, un personnage, il y a deux personnages mythiques, c'est genre Sophie. C'est la meuf qui joue donc la maman de Stifler
dans American Pie.
Moi, je l'ai pas vue. Mais elle est géniale. Enfin, vraiment, c'est un personnage. En plus, elle est grande polonaise et donc elle passe son temps à faire des blagues à la con. Et en fait, c'est un peu l'antécédent. Enfin, c'est un peu le même personnage que Max, sauf que.
En polonais,
quoi. C'est exactement ça.
Et avec. La chirurgie
esthétique. Limite, ça va, c'est choquant, mais tu vois, c'est drôle.
Ah. Et un peu plus pouf que Pax, quand même.
Ouais, grave. Mais après, t'as Oleg aussi, qui est le serveur, qui lui, c'est un gros porc, genre bien violemment.
Je vais te faire l'amour, et peut-être qu'après, on couche là ensemble.
Et puis t'as le petit chinois qui dirige le restaurant. Ça, c'est vrai, stéréotypé.
Et il y a Earl aussi.
Earl aussi, le toxico black de 80 ans qui tient l'accueil. Enfin, c'est des stéréotypes, quoi, mais c'est tellement drôle.
C'est tellement bien, c'est intelligent, en fait. C'est des stéréotypes.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est des stéréotypes. Mais ils en jouent vraiment, quoi. Genre le black, il passe son temps à faire ça.
Yes.
Je pense que c'est la seule sitcom qui prend vraiment une dimension plus sociale, en fait.
Ouais,
c'est des personnages qui sont vraiment opposés.
C'est exactement ça. Ouais. En vrai, et puis en plus, c'est touchant. Puis c'est surtout, c'est cynique au possible. Donc en vrai, c'est quelque chose qui se prend pas au sérieux du tout. Et par contre, c'est la série aussi où il y a les rires enregistrés aussi. C'est une des seules séries de sitcom qui a encore les rires enregistrés. Ouais. Et en vrai, moi, je sais pas, quand je te comprends pas, pour tout à l'heure, tu sais que t'aimes pas ça, toi, les rires enregistrés, si tu trouves ça chiant.
Moi, ça me fait chier. Enfin, c'est. Regardez, là, maintenant, faut rigoler.
Ouais, mais sauf que des fois, en vrai, moi, sans les rires enregistrés, c'est vrai que ça je comprends pas. Déjà, surtout l'humour américain, des fois, tu comprends pas les blagues. Et une fois que tu vois que le public rigole, tu repenses à la blague et tu dis, ah oui, là, c'était drôle. Mais c'est vrai, mais par contre, je trouve qu'en plus, c'est une sorte d'éthique spécifique aux séries américaines. Et j'avoue que des fois. Non, je trouve que ça donne un peu vieille old school parce que la série Two Broke Girls c'est quand même assez old school. Hein. Franchement, c'est
même l'image, au niveau de l'esthétique, c'est
très old school. Et comparé à New Girl, où par contre c'est très sobre, c'est très contemporain. Enfin,
ouais, c'est moderne.
Ouais, c'est super moderne.
Ils ont un budget dingue aussi, New Girl. Au niveau, pour une sitcom, ils ont un bon budget.
Bah, je sais que Zooey Deschanel, ça a été la quatrième actrice la mieux payée de l'année par le magazine Forbes. Genre,
c'est connu déjà avant la série, elle était assez.
Ouais, mais encore, c'est quand même, faut pas déconner, comparé à tout ce qui est Modern Family, The Big Bang Theory, tout ça, je pense qu'il y a d'autres actrices qui auraient pu nous payer. Quoi. Enfin bon voilà.
Bah merci Antoine pour le tour de ces deux petits bijoux de l'humour américain qui sont vraiment super.
Oui, et si jamais vous avez vu, bon, si jamais vous avez vu Thor, hein, ouais, vous verrez donc le personnage de Mask qui est joué par Kat Dennings, donc elle joue dedans.
Et c'est la brune. Oh, je viens de penser à un truc, je l'ai vu ce week-end aussi. Du coup, j'ai pensé à toi. Elle joue dans The Newsroom saison 3, super série sur le journaliste. Elle joue une des personnes qui veut racheter la chaîne de journalisme du héros.
Oh, c'est bien de l'avoir dans un nouveau rôle, tiens.
Et oui, et elle joue un rôle totalement différent de celui de Max et c'est vraiment super ce qu'elle fait. C'est une très bonne actrice. Ouais. Du coup, bah merci. Donc, on rappelle New Girl diffusée sur Fox. On vous invite à la regarder. La quatrième saison est en cours, si je dis pas de bêtises.
Ouais, en cours là.
Et Two Broke Girls aussi, on vous invite à regarder sur CBS. C'est combien qui sont
troisième
qui est en diffusion là?
Comment?
Troisième saison de Two Broke Girls qui est en diffusion?
Non, c'est la quatrième.
En diffusion?
Quatrième, ouais, en diffusion. Ouais, j'ai vu hier.
En ce moment. J'ai deux saisons de retard. Alors. Ouais.
Donc voilà. Donc merci beaucoup. Donc tout de suite, on écoute quoi?
Donc Elrose de Fancy et McLemore.
Et on revient avec Jérémy et la rubrique littérature. Just escape. My old man, he kicked me out. He kicked me out when I told him that I live this way. 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 He doesn't own me. He doesn't own me. He doesn't own me. He doesn't own me. Just escape. The boots and we walk away. I felt slightly connected to him and said, now boy, now you own me. Doesn't sleep, so in truth he never wakes up. Another day rushed into his death at a breath on the treadmill of the famous. He makes mistakes, tells stories to his paintbrush, and when the world finally sees his art, he wishes that he never would have made it. Just escape, ricochets and eclipses his faith. Living in a city with a grand brother over your shoulders, and you're becoming suffocated by the weight. Can't hit those brakes. This is what you wanted, huh? But you got it all in vain, 'cause you forgot who you are. Right as the world, learn your name. It goes. Land, we're falling. Dead rose, we're falling. Dead rose, land, we're falling. Dead rose, we're falling. Let me ask my issues. Ashtray is this asphalt. American spirit, black coffee, conversations, and a passport. When God gives you everything, everything that you ever asked for, and it still looks a bit different than when you pictured it on that back porch, and I'm gone. World traveler, all I got is my songs. When the nights start blending into one another and I don't recall. Tom Petty and this motherfucker, all I wanna do is free fall. Yeah, free fall. And I'm so caught up, I'm caught up, I'm caught up, and I'm so tired. Swore that I wouldn't stare into the light, and guess who tried it? Shit, I'm blinded by this limelight, this limelight. It's all night, it's all day. These bright lights. Once you turn them on, you can't walk away. Don't die here, don't die here. I came too far, I'm too great, but I'm too scared, I'm too afraid to stare this world into its face. I'm almost home, I'm driving lost. My eyelids closed, light turns to gray. The camera's off, the show is over. You close the curtains and just escape. Ed Rose land, we're falling. Ed Rose, we're falling. Ed Rose land, we're falling. Ed Rose, we're falling. Live this way, I live this way. Hein?
Le meilleur à la fin.
C'était Arose de Fences et McLemore.
Arose
et Rose. C'était Arose de Fences et McLemore.
McLemore.
C'est français, ma petite dame.
Non, c'est
McLemore. J'ai demandé. J'ai demandé.
Eh les gars,
j'ai demandé à McLemore.
On va peut-être pas le faire maintenant.
Écoute ses albums, tu verras.
J'ai demandé à une américaine.
Ok.
Elle m'a dit c'est McLemore là-bas.
On s'en fout.
Oh les gars, on arrête maintenant. C'est pas le moment de se discuter. On lave le linge sale. Plus tard. Si vous voulez, à la fin de l'émission, on fait un petit Fight Club.
Oh, moi je suis chaud, hein, mais.
Un quoi ?
Un Fight Club.
Ah non, 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 non.
Le gagnant remportera ma chemise.
C'est qui le psychopathe dans l'histoire, là ?
Alors, du coup, on revient avec Jérémy et la rubrique littérature. Je reçois un appel en même temps de mon parrain de la fac, donc vas-y, commence.
Ah, c'est génial, les inscriptions.
Vas-y.
Bon, je te coupe tes micros.
Il s'en bat les couilles.
Alors. Moi j'ai beaucoup. Non mais t'es sérieux Fred, raccroche.
Le mec il s'en bat les couilles quoi.
Non mais va te faire foutre, bah ok je fais pas ma chronique.
Bon allez c'est pas le mec, vas-y.
Alors, donc, mais putain mais t'es sérieux, on t'entend.
Blaireau va.
Alors.
Hein, qu'il est ?
Juste Arthur nous vous dit bonjour.
Bonjour Arthur.
Je suis désolé les gars.
C'est pas possible.
Désolé Jérém, vas-y.
Non mais y a pas de souci. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver un texte de littérature qui me plaisait suffisamment et que j'allais pouvoir attaquer sous un angle suffisamment différent dans le thème de l'amitié. J'ai pas mal réfléchi, je me suis dit oh, allez je vais prendre On the Road ou un truc comme ça et au final j'ai choisi de rester sur le voyage initiatique, mais j'ai pris un livre de Haruki Murakami qui est un auteur japonais, avec le livre Kafka sur le rivage, publié en 2004.
T'aurais fait On the Road, je t'aurais niqué la gueule. Ok.
Non mais j'allais pas... Tu te calmes.
Le Fight Club va peut-être avoir lieu plus tôt que ce que je pensais.
Oui, c'est possible. On s'écarte, nous.
Donc Murakami, c'est un auteur culte pour le Japon et à travers le monde, qui est caractérisé par une langue poétique et ciselée, et par une recherche très forte au niveau des personnages. Donc... Il a reçu le prix Gonzo, qui est l'équivalent du prix Goncourt en 1978 pour Écoute le chant du vent, et il a été plusieurs fois favori pour le prix Nobel de littérature. Après, il a été favori, mais comme on le sait, le prix Nobel de littérature récompense rarement les favoris. Donc Kafka sur le rivage est un roman de voyage initiatique qui raconte l'histoire d'un adolescent, Kafka Tamura, qui quitte la maison familiale de Tokyo pour échapper à une malédiction oedipienne proférée par son père. Donc on suit ce personnage qui, à 15 ans, quitte le cocon familial et fait des rencontres et se balade à travers tout le Japon. Et en parallèle, il y a une deuxième histoire qui est l'histoire d'un vieil homme sourd mais qui peut parler au chat. Et donc on suit le voyage de ces deux personnages qui au final finiront par se rencontrer. Pourquoi parler d'amitié là-dedans ? Parce que, comme dans tous les voyages initiatiques et particulièrement dans celui-là, les personnages rencontrent des personnes et ces rencontres créent de l'amitié et créent le cœur même du voyage. Donc c'est un roman que je recommande particulièrement pour tout le monde. C'est très bien écrit, c'est très beau.
Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Mais ah ouais, tu l'as fini ?
Bah du coup, je l'ai fini, oui.
Ouais. Donc non mais c'est très beau, c'est super fin comme écriture. Il y a vraiment une recherche au niveau des personnages qui est assez impressionnante. Et par contre, et Antoine, tu vas me taper parce que je vais quand même
d'accord, OK.
Parce que j'ai quand même décidé de faire
Il te demande de le faire.
De suite, ouais. Attends pas. Vas-y.
J'ai quand même décidé de faire une petite ouverture pour parler des romans de voyage initiatique. Donc il y a, je pense à Into the Wild, On the Road et à la Horde du Contrevent qui sont tous ces romans font ressortir quelque chose, c'est que le voyage ça se fait et ça se tisse au travers des rencontres et ça se tisse au travers des liens. Et s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amitié.
C'est pas possible, parce qu'Into the Wild, il est tout seul pendant toute l'histoire.
Bah non, mais justement, c'est ça le concept.
Il est en communion avec la nature. Ah, c'est pour ça qu'il y a...
Mais non, il rencontre plein de gens dans Into the Wild.
Ah non, je parle de la fin, moi.
En communion avec la nature.
Non, mais il rencontre plein de gens. Dans Into the Wild, il rencontre plein de gens et il crée des liens avec le vieil homme, merde, comment il s'appelle, dans la station, avec cette fille, etc. Il crée des liens tout le temps. Et au final... Et Into the Wild, c'est un super exemple pour ça, c'est montrer que le voyage et l'humain seul, il a besoin de créer du lien, il a besoin d'avoir des amis autour de lui. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que je voulais dire.
Ouais, carrément. Bon, en plus, alors moi, je conseille vraiment ce livre, c'est vraiment un petit plaisir à la lecture, du coup, parce que tu me l'as prêté, alors je l'ai lu. Par contre, je trouve ça marrant parce que je vais rebondir sur ce bringue, la blague dont on parlait avec Paul hier, c'est que Kafka sur le rivage, ça fait quoi quand on enlève le F?
Ah, si t'enlèves le S, ça fait caca sur le rivage.
Et juste, après, juste avant, le mec a fait un truc, c'est le son du vent. Enfin, écoute le son du vent. Je pense qu'il a une...
Écoute le chant du vent.
Ouais, moi je pensais ça, du coup.
Il a des délires scato, à mon
avis. Vous avez des délires scato.
Non, bah non, c'est pas nous, c'est les titres.
En tout cas, du coup, on répète le nom de l'auteur.
Ouais, bah attends, pour en revenir à Murakami, donc il a écrit plein de romans. Moi, mon préféré, c'est La Ballade de l'Impossible.
D'accord.
C'est superbe. Et il a... Enfin, il a touché à tous les types d'écriture possibles. Il a quelque chose, il a vraiment quelque chose, et c'est vraiment un grand auteur. Et d'ailleurs, pour le titre Kafka sur le rivage, je pense que la plupart de nos auditeurs s'en doutent, mais c'est une référence à Franz Kafka, qui est un grand auteur du nouveau roman, et qui est un des modèles du Murakami.
D'accord. Voilà. Et ben en tout cas, moi, je conseille vraiment ce livre. Donc, on rappelle, hein, Kafka sur le rivage de Murakami, à lire et à relire, c'est super bien. Bah, merci en tout cas, Jérémy, pour cette rubrique littérature. Désolé pour cette désastreuse intro. Donc, avant d'enchaîner, je tiens à dédicacer cette émission à mon parrain de socio, Arthur, qui a décidé de nous troller l'émission. Voilà.
Ouais, qui a décidé de te troller parce que tu as décidé de me troller.
Non, j'ai pas réflexe. Bref. Donc, tout de suite, on écoute quoi ?
Rock Bottom de Eminem.
Et on reviendra juste après avec la conclusion de l'émission. This song is dedicated to all the happy people, all the happy people who have real nice lives and have no idea what it's like to be broke as fuck. I feel like I'm walking a tightrope without a circus net. Popping Percocet, I'm a nervous wreck. I deserve respect, but I work a sweat for this worthless check. I'm about to burst this tech, get somebody to reverse this debt. Minimum wage got my adrenaline caged, full of venom and rage, especially when I'm engaged and my daughter's down to her last diaper. It's got my ass hyper, I pray that God answers. Maybe I'll ask nicer, watching ballers while they flossing and they pathfinders. These overnight stars becoming autograph signers. We all long to blow up and leave the past behind us, alone with the small fries and average half pinters. But player haters turn bitch like they have vaginas, cause we see them dollar signs and let the cash blind us. Money your brainwash, it will leave your ass mindless. No snake slither in the grass spineless. That's rock bottom. This life makes you mad enough to kill. That's rock bottom. You want something bad enough to steal. That's rock bottom. When you feel like you've had it up to here, cause you're mad enough to scream, but you're sad enough to tell. That's rock bottom. This life makes you mad enough to kill. That's rock bottom. When you want something bad enough to steal. That's rock bottom. When you feel like you've had it up to here, cause you're mad enough to scream, but you're sad enough to tell. My life is full of empty promises and broken dreams. I'm hoping things look up, but there ain't no job openings. I feel discouraged, hungry and malnourished. Living in this house with no furnace, unfurnished. And I'm sick of working dead-end jobs with lame pay. And I'm tired of being hired and fired the same day. But fuck it, if you know the rules to the gameplay. It's when we die, we know we all going the same way. Cause it's cool to be the player, but it sucks to be the fan. When all you need is rocks to be the man, plus a luxury sedan. I'm comfortable and roomy in a six, but they threw me in the mix with all these gloomy lunatics. I walk around depressed and smoke a pound of cess a day. And yesterday went by so quick it seems like it was yesterday. My daughter wants to throw the ball, but I'm too stressed to play. Live half my life and throw the rest away. That's rock bottom. When your life makes you mad enough to kill. That's rock bottom. When you want something bad enough to steal. That's rock bottom. When you feel like you've had enough to hear, cause you're mad enough to scream, but you're sad enough to tell. That's rock bottom. When this life makes you mad enough to kill. That's rock bottom. When you want something bad enough to steal. That's rock bottom. When you feel like you've had enough to hear, cause you're mad enough to scream, but you're sad enough to tell. There's people that love me, people that hate me, but it's the evil that made me this backstabbing, deceitful and shady. I want the money, the women, the fortune and fame. That means I end up burning in hell, scorching in flame. That means I'm stealing your checkbook and forging your name. This lifetime list for eternal torture and pain. Cause right now, I feel like I just hit the rock bottom. I got problems, now everybody on my block's got them. I'm screaming like them two cops when Tupac shot them. Holding two locks, hope your doors got new locks on them. My daughter's feet ain't got no shoes or socks on them. And the rings you're wearing look like they got a few rocks on them. And while you flaunt them, I could be taking them to shops to pawn them. I got a couple of rings and a brand new watch, you want them? Cause I ain't never went gold off one song. I'm running up on someone's lawn with guns drawn. That's rock bottom. Life makes you mad enough to kill. On revient sur Radio Campus Rennes 88.4 dans Melting Pop après Rock Bottom de Eminem. Donc voilà, on arrive pour la conclusion de l'émission. Donc suivant notre petite tradition, on va faire un petit tour d'actualité. Puis là, on a un peu de temps de le faire plus que d'habitude. Donc les gars, actualité de la semaine dernière ou de cette semaine, que comptez-vous faire ? Antoine ?
Oh putain, je vais me dire quoi là. Qu'est-ce que je compte faire cette semaine? Oh, punaise. Déjà, je peux vous parler de tout ce qui est au niveau des barbares, les bars en trans qui va commencer ce week-end là à Rennes. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air intéressants. Et en plus, la plupart des choses sont gratuites ou sinon c'est raisonnable. Je sais qu'au 1998 Life Club, il y a pas mal de concerts qui vont débarquer dès ce week-end. Et je vous conseille Camille, parce que je pour avoir. En fait, la semaine dernière, j'ai fait une expo dans un magasin qui s'appelle Le 5, et qui est donc un art shop qui est situé à Jean-Jacques, donc juste en bas de la rue Sainte-Anne. Je suis allé là-bas et en fait, ce DJ était là pour faire l'ouverture. Donc j'ai écouté son son. Alors c'est de la techno minimaliste, mais c'est super bien comme son. Et donc lui aussi, il passe donc ce week-end, 1998, et je sais que ça se déroule sur plusieurs jours. Je pense que, aux échos que j'ai entendu, ça a l'air plutôt intéressant. Et sinon, après niveau cinéma, j'ai jeté un coup d'œil quand même à Hunger Games, parce qu'on l'avait pas la semaine dernière, donc j'aimerais voir quoi ça ressemble. Parce que j'ai reçu les premières critiques, je les ai vues, donc il paraît que c'est beaucoup trop adulte.
Ce qui est pas mal. Il paraît que c'est très frustrant la coupe. Coupe du milieu est très
frustrante. Oui, par contre, la coupe du milieu est très très frustrante. En même temps, je les comprends parce que.
Comme tous les trucs coupés pour du commerce.
Bah ouais. Ouais, mais il y en a encore que c'est plus justifié que
d'autres. C'était pareil pour Harry Potter.
C'est jamais justifié de couper un film, même s'il fait 4 heures. Tu le coupes pas.
Non, s'il fait 4 heures, t'as intérêt à le couper. Ah si, je peux te promettre.
Non, mais c'est du business. C'est du business. C'est pour faire deux sorties et doubler les.
Oui, non, mais en tant que spectateur, t'as pas envie que le film soit coupé, à part s'il y a une raison.
Scénaristique.
Voilà, au final, t'as pas envie, ça t'empêche pas d'y aller non plus. Parce que bon, tu regardes Harry Potter, ça a bien marché les deux.
Mais tu les as vus quand même?
Non.
T'as pas vu les derniers?
J'ai pas vu les derniers.
Je suis allé voir les deux.
Moi aussi, je suis allé voir les deux
derniers.
Moi, je vais dire non.
Et je ferai pareil avec Hunger Games.
Comme Hunger Games, ça me dérange pas. Divergente, je suis pas sûr qu'ils fassent la même chose.
Ils feront la même chose.
En soi, le Hobbit, c'est la même chose.
Le Hobbit, à la base, devait y en avoir que deux.
Ouais, à la base, et il a décidé de faire un troisième. Du coup, en vrai, pour lui, ça va. Pour le coup, ça va. Il a rajouté plein de choses, quoi. Mais du coup, ça reste potable.
Et puis, la coupe du 2 est frustrante, mais enfin, scénaristiquement, elle justifie encore à peu près. Tu vois, ça tombe sur un cliffhanger un petit peu.
Mais quand tu vois Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Parce que moi, le cliffhanger du premier.
C'est justifié, c'est dans les bouquins. Puis, de toute façon, tu peux pas faire pire cut que celle de Nymphomaniac.
C'est clair. Nymphomaniac, ça coupe pendant une scène, en fait.
Ils avaient pas le choix en même temps. Tant 6 heures de film, je peux dire que.
Non, il dure pas 6 heures, le film.
À la base, il devait durer 8 heures, il a raccourci à 6, puis 4. Version longue, putain.
Bon, de toute façon, Lars von Trier.
T'as aimé Nymphomaniac, donc fais pas genre.
J'ai aimé un film, dont le film de lui, du coup, parce que monsieur veut plus d'argent, mais ça fait pas de moi un film de Lars von Trier.
Donc, j'irai voir sûrement Hunger Games, et donc voilà, j'ai eu les échos, il paraît que c'est trop adulte que. Il y a aussi des scènes qui ont été rajoutées du bouquin, des scènes qui ont été coupées. Donc bref, bon, je vais voir à quoi ça ressemble parce que ça me ferait chier quand même qu'ils aient changé le bouquin.
Et toi, Jérém, tu fais quoi du coup cette semaine et la semaine dernière aussi, qu'as-tu fait?
Alors, ce week-end, j'ai eu des amis et ma sœur qui sont allés à la Hard to Play, qui était une super convention à Nantes. Et il y avait une super, apparemment, conférence de Mathieu Sommet, qui est donc l'animateur de Salut les Geeks, une émission sur YouTube. Et apparemment, c'était hyper, méga intéressant. Et normalement, elle sera en différé sur YouTube. Enfin, elle est enregistrée. Et normalement, elle devrait être mise sur YouTube dans les jours qui viennent. Donc, tapez conférence Mathieu Sommet. Pour ceux qui aiment le personnage, je sais que je ne suis pas le seul. C'est vraiment quelque chose à aller voir. Sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Pas grand-chose.
D'accord.
J'ai à peu près fait le tour.
D'accord. Merci beaucoup. Du coup, Paul, tu fais quoi toi cette semaine?
Déjà, je pense qu'on va aller tous ensemble au ciné. Je te laisserai parler des sorties. Il y a juste une sortie dont je vais parler, c'est The Search de Michel Hazanavicius, qui avait été un petit peu allumé à Cannes et il a remonté le film apparemment.
Pas qu'un petit peu.
Et c'est parce qu'il est assez sévère vis-à-vis de l'armée russe aussi. Et les critiques russes sont pas du tout appréciées.
Ouais, ils l'ont sifflé.
Mais apparemment, il y a des très très bons retours. Et sinon, le truc dont je veux absolument vous parler, c'est qu'aujourd'hui, Hubert Félix Thiéfaine a sorti son nouvel album qui s'appelle Stratégie de l'inespoir, que j'ai pu écouter hier, et je l'écoute en boucle parce que c'est magnifique, parce qu'il met encore une fois une branlée à tous les autres artistes français, parce que c'est de la putain de poésie, c'est juste magnifique, et vraiment écoutez-le quoi.
Tu nous passeras peut-être un petit morceau
La semaine prochaine, c'est fort fort probable.
T'avais un truc à rajouter, Jérém?
Ouais, il y a Nightcall qui est sorti.
Oui, j'allais en parler.
Ouais, je te laisse.
Paul, en ce qui me concerne du coup, Jérém vient de le dire, sortie de la semaine, pour moi les deux sorties que j'ai très envie de voir, c'est Astérix au domaine des dieux, parce que film d'animation français, déjà il n'y en a pas beaucoup, film d'animation français écrit par Alexandre Astier, il y en a encore moins, film d'animation français écrit par Alexandre Astier et réalisé par un ancien de Pixar qui a fait là-haut, je pense que ça vaut le coup,
aussi.
Et qui a eu des très très bonnes critiques, je pense qu'il a tout pour être le meilleur Astérix depuis Mission Cléopâtre. Donc on verra. J'attends non, mais je pense qu'il est très différent.
Après, c'est
aussi,
différent. Ouais, c'est ce que c'est de l'animation. Ouais, c'est mais peut-être pas le même public.
Insufflé avec en fait. Oh, tu sais, qu'ils disent, tout le monde dit, que ça dire qu'il y a deux lectures, une pour les gosses et une pour les adultes.
Ouais, ouais, bah, c'est comme ça pour moi. Ouais, comme même dans Mission Cléopâtre. Pas que dans Astérix. Enfin, dans tous les trucs d'animation.
Et puis, de toute façon, moi, je me dis, Alexandre Astier, en général,